Chapitre 9. Mephibosheth. Les chapitres 9 et 10 sont une espèce d'appendice qui présente en type, au chapitre 9, la grâce du Messie envers le résidu d'Israël et, au chapitre 10, cette même grâce offerte aux nations qui la repoussent en attirant sur elles le jugement de Dieu. Au chapitre 9, la maison de Saül revient, au moment voulu, à la mémoire de David. Il cherche quelques restes de cette race pour lui faire du bien à cause de Jonathan, son ami. Verset 1. Il trouve Mephibosheth, pauvre rejeton de cette famille, portant sur sa personne la conséquence du manque de foi de la femme qui était chargée de lui. Il en sera du Seigneur Jésus comme de David. Le temps viendra où le Messie renouera ses relations avec le résidu d'Israël dont les pères, comme Jonathan, l'avaient reconnu pendant les jours de sa réjection et, malgré leur faiblesse, l'avaient aimé comme leur âme. Ce premier résidu converti au jour de Jésus a pris fin et s'est fondu, pour ainsi dire, dans l'Église chrétienne après la résurrection du Seigneur. L'Église forme, au temps actuel, la grande parenthèse qui sera fermée par la venue de Jésus pour l'enlèvement des saints. C'est alors seulement que le vrai David se souviendra des rejetons de Jonathan, postérité morale des premiers disciples juifs. Il saura découvrir cette postérité dans un résidu misérable qui, jadis, ne se fiant pas à la grâce, avait tourné le dos au Messie et qui souffre maintenant des résultats de son incrédulité. Ce résidu aura deux caractères que nous retrouvons à chaque pas dans les psaumes. Il portera le poids de la colère divine en gouvernement contre un peuple rebelle dont il aurait dû se séparer, mais il portera aussi, comme Mephibosheth, le caractère de la grâce qui sera son partage. Les psaumes expriment, par la bouche du résidu, ces deux ordres de pensée en apparence contradictoires. Premièrement, le gouvernement de Dieu s'exerçant en colère extérieure contre le résidu, parce qu'il fait partie du peuple qui a crucifié le Messie et s'est chargé aussi de la coupe du sang. Psaume 51, verset 14. Délivre-moi de la coupe du sang, ô Dieu, Dieu de mon salut. Deuxièmement, la grâce agissant dans le cœur de ses justes pour les amener à reconnaître le Seigneur comme sauveur et à partager la gloire de son royaume. Relevons maintenant dans ce récit les traits qui ont rapport à nos propres relations avec Christ. David donne cours à sa miséricorde envers ceux qu'il veut bénir. Il n'y avait aucune raison pour que son intérêt se portât sur la maison de Saül. De tout temps, elle lui avait fait la guerre et, quant à son état actuel, sa misère seule pouvait attirer les pensées du roi. Mais c'est précisément la misère qui attire la grâce. David dit « Y a-t-il encore quelqu'un qui soit demeuré de reste de la maison de Saül ? Et j'userai de bonté envers lui à cause de Jonathan. » Verset 1. Et plus loin, « J'userai envers lui d'une bonté de Dieu. » Verset 3. C'est-à-dire d'une bonté divine. Tsiba vient lui apprendre qu'il reste un pauvre misérable, perclus des deux pieds, pour avoir fui jadis celui qui ne pensait qu'à bénir. Le roi le fait chercher, ce Mephibosheth, qui était du nombre de ces aveugles et boiteux, haïs de l'âme de David. Chapitre 5, verset 8. Et le boiteux se présente devant lui. De quel sentiment devait être agité le cœur de ce pauvre infirme? Avec quelle angoisse il devait envisager le sort qu'il attendait. David avait bien dit à Tsiba qu'il userait d'une bonté envers un des descendants de Saül, mais, quand il aurait devant lui le rejeton de cette race qu'il avait traqué sans merci, songerait-il encore à exercer envers lui la miséricorde promise? Et David dit, « Mephibosheth, il l'appelle par son nom, ce nom que personne n'avait prononcé devant lui. David me connaît donc, il se souvient de moi, doit penser le misérable. Et Mephibosheth, prosterné aux pieds du roi, dit « Voici ton serviteur ». David fait ce que fait toujours le Seigneur quand il veut gagner la confiance d'un pécheur. Il lui dit « Ne crains point ». Quand cette pauvre âme, effrayée du jugement attendu, se trouve au pied de son juge. « Ne crains point, car certainement j'userai de bonté envers toi, à cause de Jonathan, ton père. » Il se souvient de son alliance avec Jonathan. Il s'était lié envers lui par des promesses qui étaient sans repentance. 1 Samuel 20, versets 14 à 17. Il ne pouvait ni ne voulait en revenir. Méphibosheth n'avait rien à craindre, car son juge lui dit « Certainement, j'userai de bonté envers toi. » Mais David ne s'en tient pas là. « Je te rendrai tous les champs de Saül, ton père. » Il le fait rentrer dans son héritage. Puis, tu mangeras continuellement le pain à ma table. La grâce du roi lui donne une place des plus marquantes à sa cour. Il mange avec le roi, et bien plus encore, comme un des fils du roi. Verset 11. David lui donne, aux yeux de tous, le titre et la relation de fils. Ce devait être, à le considérer, la misère même que cet homme. Incapable de se mouvoir, ce pauvre impotent devait être porté à la table du roi. Que devaient penser de lui ceux du dehors qui auraient assisté à l'un des festins du palais? Mais pour David, il est un fils, placé dans la position la plus élevée qu'il puisse lui donner. N'est-ce pas ce que nous trouvons en Éphésiens 2, versets 6 et 7? Dieu nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus, afin qu'il montrât dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce dans sa bonté envers nous dans le Christ Jésus. David agit de même envers Méphibosheth. Le fait d'être assis comme fils à sa table était, dans la pensée du roi, mille fois plus précieux que le fait d'être héritier. Aussi lui répète-t-il ces paroles par trois fois, versets 7, 10 et 13. Remarquons que le fait d'être introduit dans cette relation très glorieuse ne changeait rien à l'état de Méphibosheth. Le chapitre se termine par ces mots « Et il était boiteux des deux pieds ». Aux yeux des autres, à ses propres yeux, il est donc nécessairement le même. « Je sais qu'en moi, c'est-à-dire en ma chair, il n'habite point de bien », dit Paul en Romains 7, verset 18. Aux yeux de David, il est tout autre chose. Il est revêtu de toute la dignité d'un fils du roi. C'est ainsi que nous, chrétiens, qui n'avons aucune confiance dans la chair, nous devons rester où nous sommes, en considérant ce que Dieu a fait de nous. Il ne nous voit plus dans notre misère. Pour exalter sa grâce, il donne à de pauvres boiteux des deux pieds un droit à sa présence dans la gloire. Que se passe-t-il dans le cœur de Méphibosheth en se voyant l'objet d'une telle faveur? Il se prosterna et dit « Qu'est ton serviteur, que tu aies regardé un chien mort tel que moi ?» Devant David, il se qualifie de chien, d'être impur et méprisable, image de souillure. Un chien mort, objet infect et rebutant, qu'on repousse du pied. En parlant ainsi à David, il prenait, d'autres que lui pouvaient le savoir, la place que David avait prise vis-à-vis de Saül, son ancêtre. « Qui poursuis-tu? Un chien mort ?» 1 Samuel 24, verset 15. Le roi puissant devant lequel se tenait Méphibosheth avait pris autrefois la même place que lui. Il était entré dans la connaissance, dans l'appréciation de ce qu'était la souillure, la mort, la réjection, pendant les jours de son affliction. C'est à un tel sauveur que Méphibosheth avait affaire. Lorsque la Syrophénicienne se trouve en présence du Messie, « Il ne convient pas, lui dit-il, de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » « Oui, Seigneur, » répond-elle. Elle accepte cette sentence. « Oui, Seigneur. C'est vrai, je confirme ce que tu viens de dire. Je suis indigne, mais tu es la grâce en laquelle je me confie. Même les chiens sous la table mangent des miettes des enfants. Marc 7, versets 24 à 30. Ces paroles vont directement au cœur de Jésus. Une foi qui, malgré notre profonde indignité, ne doute nullement de son amour et de sa puissance, est sûre de recevoir en échange une abondance de bénédictions divines. Notre indignité ne sert qu'à mettre en lumière la grandeur de la grâce. Le résidu juif de la faim arrivera aussi au jugement complet de lui-même en présence de celui qui l'a rejeté. Il dira « Est-il possible que je ne l'aie rien estimé, lui, le Fils de Dieu ? Et lui s'est servi de mon inimitié pour se laisser frapper à ma place. Il est entré dans ma condition comme un agneau mené à la boucherie, sans ouvrir la bouche, ayant résolu de me sauver à tout prix. » La part de Mephibosheth ne peut lui être ôtée. Il mangera continuellement le pain à ma table. Versets 7 et 10. Il mangeait toujours à la table du roi. Verset 13. Tu ne retireras point ta bonté de ma maison à jamais. Il habitait à Jérusalem, au lieu même que le roi avait choisi pour sa demeure. Nous possédons ces mêmes privilèges, et cette série de grâces qui appartenait à Mephibosheth est aussi notre lot actuel et futur. Nous avons l'héritage et nous le posséderons. Nous habitons dans la maison du Père et nous y habiterons pour la durée des jours. Il nous fait asseoir à sa table, nous y serons à jamais. En vérité, quand nous serons à ce festin de l'avenir, l'amour qui s'est abaissé pour nous sauver consentira à se faire éternellement le serviteur de notre joie. Comme Mephibosheth, il nous faut prendre devant la grâce la mesure de ce que nous sommes et, nous jugeant nous-mêmes, comprendre que notre position glorieuse d'enfant de Dieu ne dépend que de l'amour dont le cœur de Christ est rempli pour de pauvres êtres tels que nous.